8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, auteur de Urgence sanitaire chez Robert Laffont.
Bienvenue à vous et bonjour professeur Éric Combe. La vaccination avec AstraZeneca est donc suspendue en attendant l'avis de l'Agence européenne du médicament dans les prochaines heures. Suspendre ce vaccin, professeur, est-ce que c'est une décision qui vous semble rationnelle ?
Oui, honnêtement, je pense que c'est une décision rationnelle, compte tenu de ce qui se passe en Europe. Je pense que ça aurait été intenable de pas suivre les autres pays européens.
Intenable, dites-vous, mais qu'est-ce qui guide vraiment cette décision de suspension ?
Ce qui guide cette décision de suspension, c'est la survenue d'effets indésirables, dont d'ailleurs on n'est même pas sûr qu'ils soient imputables au vaccin. Simplement, il faut juste vérifier si justement c'est imputable ou pas au vaccin. C'est-à-dire il faut établir un lien de causalité ou éliminer ce lien de causalité. Ça demande un petit peu de temps. Donc c'est normal d'avoir demandé à l'Agence européenne du médicament de trancher.
Mais est-on dans le principe de précaution ou bien dans un précautionnisme à l'excès et même, j'allais dire, une recherche du zéro risque qui n'existe pas ?
Alors effectivement, vous avez raison de souligner que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier depuis le début de cette épidémie. On pense qu'on est immortel. Ben non, on n'est pas immortel. Ben non, le risque zéro n'existe pas. Et effectivement, on est dans ce cas de figure-là, du principe de précaution. Certains diront pousser à l'extrême, d'autres diront que c'est normal. Donc je pense qu'on n'est pas à 48 heures près, honnêtement. De toute façon, on est quand même en pénurie de vaccins. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de se précipiter, que 48 heures, on n'était pas à 48 heures près.
Mais quelles conséquences symboliques en termes de confiance ? On va en parler, professeur Éric Combe. Mais vous me dites, c'est intéressant, on n'est pas immortel. On dirait qu'on l'a cru, qu'on a presque fait sortir de nos sociétés en fait, l'idée de mort et qu'on agit par peur aujourd'hui ?
En fait, c'est intéressant d'en discuter parce que je pense que c'est le problème fondamental de cette épidémie. Après, c'est sûr que c'est pas forcément à un médecin de discuter de ça. C'est plutôt à un philosophe et à des philosophes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, j'avais dit que c'était plus des médecins qu'il fallait interroger, mais des philosophes ou des spécialistes de l'éthique pour nous aider à réfléchir à cette question de la mort. Et effectivement, au fait qu'on n'est absolument pas immortel et c'était une notion qui était bien connue de nos anciens, mais qu'on semble avoir oubliée.
Donc les décisions sont prises et sont guidées par la peur, à vous entendre ?
Certaines décisions sont guidées par la peur, oui, évidemment, la peur de la mort, tout simplement, pour nous et pour les autres.
Mais le politique, quand il prend la décision, de quoi a-t-il peur ?
Le politique a peur des retombées de mort qui pourraient lui être attribuées. En fait, c'est ça le problème de fond, j'ai bien peur.
Mais vous le comprenez ? Ou alors est-ce qu'à l'excès, justement, on se protège, on se prémunit et on ne prend pas des décisions finalement courageuses et parfois une prise de risque qui peut s'avérer nécessaire ?
Oui, c'est vrai, mais là encore, c'est une question philosophique en fait. C'est pas une question à poser à un médecin, même si en tant que médecin, moi j'y réfléchis, mais c'est vraiment une question philosophique. D'ailleurs, il y a des philosophes qui en ont très très bien parlé de cette question.
J'ai noté tout à l'heure, professeur Éric Combe, en parlant d'AstraZeneca, que vous avez dit pénurie. Vous pensez qu'il y a une pénurie ?
Ah oui, je pense qu'il y a une pénurie
de vaccins. Pas juste un manque de doses, une pénurie.
Oui, il y a une pénurie de vaccins, c'est absolument évident, que ce soit le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca. On va pas parler du vaccin Johnson qui est pas encore arrivé, mais il y a une pénurie de vaccins. En même temps, on est très content d'avoir des vaccins à peine un an après le début de l'épidémie. Ça, c'est absolument extraordinaire sur le plan scientifique. C'est un miracle de la science, quelque part. Mais en même temps, les chaînes de production n'ont pas suivi et il y a un problème de pénurie vaccinale, oui, on gère la pénurie.
Alors, on gère la pénurie, et en plus, il y a cette suspension d'AstraZeneca, mais si on devait, professeur Éric Combe, comparer avec les effets secondaires ou indésirables des autres vaccins, par exemple Pfizer ou Moderna, pas avec celui d'AstraZeneca, que diriez-vous ? Quelle comparaison ?
Alors, c'est vrai que c'est quand même il y a des effets indésirables qu'on peut pas le nier. Alors après, il y a
chez les autres aussi.
Oui, il y a des effets indésirables chez tous les vaccins. Après, c'est une question de fréquence. C'est des effets indésirables qui en général sont une fièvre, une fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, musculaires, un syndrome pseudo-grippal, puisque la plupart des vaccins sont d'ailleurs des vaccins ciblés sur des virus, comme le vaccin de la grippe. Là, c'est peut-être un peu plus fréquent, effectivement, avec le AstraZeneca. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, hein, quand même, parce puisque c'est une question de rapport bénéfice-risque, en fait.
Et elle reste très positive pour ce vaccin AstraZeneca,
à mon
selon
avis,
vous.
Alors, on va bien voir ce que va trancher ce que va dire l'agence du médicament, mais il me semble que le rapport bénéfice-risque est quand même largement en faveur du vaccin, même s'il y a quelques effets indésirables.
Mais alors, comment expliquer que ces complications éventuelles avec l'AstraZeneca, professeur Eric Combe, n'ont pas été détectées en Grande-Bretagne, qui ont massivement injecté ce vaccin?
Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est les systèmes de pharmacovigilance, hein, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de surveiller les effets indésirables des médicaments. En France, on a un système qui est assez performant. Alors après, c'est pas nous, hein, qui avons constaté ça, c'est pas les Français, hein, c'est les Autrichiens qui ont constaté ça en premier avec les Danois. Donc tout dépend de la force, de l'efficacité de votre système de pharmacovigilance. Mais là, une fois encore, faut préciser, on n'est pas du tout sûr que ça soit attribuable au vaccin.
Mmh. Une question très concrète pour tous ceux qui ont déjà reçu une première dose de ce vaccin AstraZeneca en France, il y en a des milliers. Si la suspension se prolonge, comment faire pour tous ces primo-vaccinés?
Effectivement, c'est une bonne question. Je pense qu'ils pourront... À mon avis, le vaccin va être
Vous n'avez pas beaucoup de doutes là-dessus à vous entendre ce matin.
Non, j'ai pas beaucoup de doutes. Je pense que c'est juste une pause de 24-48 heures ou 72 heures.
Enfin, mais une pause quand même pour étudier sérieusement...
C'est logique. Je trouve ça normal qu'on prenne des précautions, nécessaires. Donc, soit ils sont revaccinés avec le vaccin Astra, ils auront une deuxième dose. Une fois que le feu vert aura été de nouveau allumé, soit ils seront vaccinés avec le vaccin Johnson, qui est basé sur le même principe.
Sauf qu'il y a une donnée fondamentale, et on n'en a pas parlé depuis le début, professeur Eric Combe, c'est la confiance qui peut être totalement entamée, même si ce vaccin AstraZeneca reprend et on reprend la vaccination. Est-ce que tout cela peut contrarier notre campagne de vaccination encore poussive en France ?
La confiance, c'est vrai que depuis le départ, en fait, il y a un problème de confiance. Hein. La confiance, elle a été cornée avec dès l'histoire des masques, en fait. La confiance a été...
Par la communication, alors, voilà. Du gouvernement.
Oui, mauvaise communication. Bon, je ne vais pas juger ça là, ce n'est pas mon métier. Mais de mon point de vue, quand même, mauvaise communication. Ça a commencé avec les masques, puis avec les tests, puis avec l'isolement, puis avec les vaccins maintenant. Toutes choses qu'on ne sait pas bien faire et pas forcément de notre faute, d'ailleurs, principalement du fait d'une pénurie. Et du coup, on n'a pas su communiquer correctement.
C'est parce qu'on gère une pénurie qu'on ne sait pas communiquer.
C'est ce que j'ai envie de dire.
C'est ce que vous pensez, je suppose.
C'est ce que je pense pour certains éléments, pas pour tous. Hein. Pour les masques, par exemple, ou pour les vaccins, c'est ce que je pense, oui, effectivement.
Non, mais je n'ose pas poser la question parce que les deux AstraZeneca sont en retard de livraison. Oui. Nous ne sommes pas en train de gérer ces retards de livraison en suspendant ce vaccin.
Non, quand même pas.
Bien. Le vaccin russe Sputnik, professeur Eric Combe, est en attente d'homologation en Europe. Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce que c'est un vaccin que l'on doit plus rapidement intégrer dans notre stratégie?
Je vous avoue, franchement, je ne le connais pas bien, donc je peux pas en parler.
Est-ce qu'il est plus... Il est classique, ce vaccin?
Oui, c'est un vaccin classique. Mmh. Il a l'air efficace, mais bon, je ne peux pas en dire plus. Je n'ai même pas vu de publication avec ce vaccin pour le moment.
La vaccination est primordiale, bien sûr, dans la course contre la montre face aux variants, mais qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment à l'heure actuelle?
C'est malheureusement une excellente question.
Et la réponse?
La réponse est, on maîtrise, c'est le virus qui dicte sa loi, hein. Et donc on ne maîtrise rien.
On ne maîtrise rien?
Non, je pense qu'on ne maîtrise pas grand-chose, parce qu'il y a des variants qui vont émerger. À partir du moment où on laisse circuler le virus, il y a des variants qui vont émerger. C'est absolument inéluctable. Si on ne veut pas de variants, il ne faut pas laisser circuler le virus. Et dans ces cas-là, c'est l'option zéro Covid, comme certains pays du Sud-Est asiatique, ou l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande, et on sait ce qui leur en coûte, et apparemment, il a été décidé que nous ne pouvions pas atteindre ce Graal, quelque part, qui est le zéro Covid, en tout cas en Europe, comme dans la plupart des pays occidentaux, d'ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça.
Bien sûr. Une question autour de ce qui est présenté comme le variant, entre guillemets, breton. Les malades, professeur Eric Combe, ont les symptômes du Covid, mais leurs tests PCR sont négatifs. Comment l'expliquer?
Ça peut arriver, parce que les tests PCR ne reconnaissent pas certains éléments du virus qui ont muté, en fait. Hein. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on laisse circuler le virus, on laisse apparaître des variants, et si on laisse apparaître des variants, il y aura des réinfections, il y aura des variants...
Confinement, reconfinement, seule solution inéluctable, ce qu'on entend avec cette pression qui est mise depuis plusieurs jours?
Le confinement, en fait, je pense que c'est la pire des solutions, hein, clairement, hein, surtout d'un point de vue mental, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. là-dessus. Après, là, actuellement, on est confronté à une saturation des unités d'hospitalisation et surtout des unités de réanimation. Et
donc ça francilienne.
Oui, francilienne. Mm-hmm. Ah oui, je ne parle pas d'un confinement national, évidemment. Je pense que maintenant, on est passé à une régionalisation de l'approche de l'épidémie, qui est bienvenue. Hein, on en avait déjà parlé. Oui, je pense que c'est la saturation du système de santé, c'est la saturation des réanimations qui pose le problème, parce que si par exemple vous ou un de vos proches est malade, bah demain on lui trouvera pas de place en réanimation, parce que les réanimations seront pleines de Covid. Donc c'est ça le problème.
On parle très peu, trop peu, des traitements, des médicaments, professeur Ericom. Pourquoi selon vous, est-ce qu'on n'y croit pas suffisamment? Est-ce que la France a suffisamment misé sur cette stratégie quand même qui est importante à côté des vaccins?
Oui, je pense que c'est très important qu'il y ait des traitements curatifs, évidemment, mais malheureusement, il y a quelques approches.
Il y a des molécules prometteuses.
Oui, il y a quelques progrès qui sont faits. Il y a quelques molécules prometteuses.
Lesquelles, selon vous ?
Il y a une molécule qui va être testée, là, très, qui a déjà été testée, qui va être testée à beaucoup plus grande échelle bientôt. Donc il y a des.
Oui,
il y a
laquelle, peut-être, professeur Ericom je ne sais pas. L'interféron, c'est ce médicament déjà utilisé contre l'hépatite C.
Il y a des médicaments. Je faisais plutôt allusion à un médicament antiviral spécifique du virus, mais effectivement, il y a l'interféron aussi qu'on peut prendre par voie inhalée et c'est relativement efficace. Les interférons sont des bons médicaments antiviraux, mais vous voyez, c'est des petits progrès, c'est pas des gros progrès. Pour l'instant, on a rien trouvé de mieux que les corticoïdes pour les malades qui sont dans des formes graves de Covid.
Mm-hmm. Pourquoi êtes-vous plus rare dans les médias en ce moment, professeur Ericom, avec peut-être une parole plus mesurée, plus nuancée en ce moment? Pourquoi cette raréfaction de votre parole? Déjà, merci d'être là ce matin.
C'est un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on nous a trop entendu, les médecins, y compris moi-même d'ailleurs, dont je me suis appliqué cette règle.
Trop entendu, vraiment?
Oui, je pense qu'on a trop entendu.
Parce qu'il y a des contradictions entre vous tous, des tests contradictoires.
C'est une véritable cacophonie, notre image s'en trouve altérée. Et comme je vous l'ai dit, je pensais qu'il était plus important maintenant d'entendre des philosophes ou des spécialistes de l'éthique que des spécialistes de médecine ou des mathématiciens qui font des modèles. Bien évidemment, tout le monde est à écouter, mais il y a peut-être des nuances à approcher. Et je pense que la réponse à cette épidémie, en fait, elle est plus philosophique aujourd'hui.
En tous les cas, les nuances, on les a entendues ce matin. Merci pour votre venue ce matin, professeur Ericom. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci à vous.